OK, on va commencer notre 47e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va voir encore l'histoire des Puritains dans sa troisième partie. Alors, dans la première leçon, on avait étudié la pertinence de l'étude des écrits des Puritains pour l'Église contemporaine. Dans notre deuxième leçon, nous avons appris que leur histoire se compose de trois mouvements, donc leurs antécédents, d'où ils viennent, autrement dit, leur développement qui s'est fait entre 1558 et 1603, et leur plein épanouissement qui s'est fait entre 1603 à 1662. Alors, jusqu'ici, on avait, dans les deux premières leçons, on avait regardé leurs antécédents, leur développement. Aujourd'hui, on va regarder comment les Puritains sont arrivés à leur plein épanouissement durant la période de 1603 à 1662. On va terminer cette étude-là en précisant l'héritage qu'ils ont légué aux chrétiens modernes. Alors, c'était une période qui a été turbulente. C'était un temps de conflit entre la couronne et le Parlement. Alors, ce conflit prit de l'ampleur jusqu'à la guerre civile dans les années 1640. L'histoire des Puritains a atteint son apogée durant cette période. Donc, leur histoire, durant cette période, comprend cinq phases. Et on ne peut pas comprendre l'ensemble du mouvement du puritanisme sans regarder un peu les rois. Donc, le premier qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé sous le règne de Jacques Ier, ou James. En anglais, c'est James. Alors que la fameuse Bible King James, c'était sous son règne que ça s'était décidé. Ensuite, le roi qui lui a succédé est son fils Charles Ier. Alors, il était vraiment en grande relation avec l'archevêque Laud. Et c'est la troisième chose qu'on va regarder, c'est vraiment que tout ça, ça a fini par se détériorer, les relations entre le roi et les Puritains, jusqu'au point où c'est devenu une guerre civile. Et Oliver Cromwell a fini par prendre le pouvoir. Ensuite, pour une certaine période, on pourrait dire que ça a été la prédominance puritaine. Donc, l'Angleterre était vraiment dirigée par Oliver Cromwell, qui était vraiment très favorable aux puritains en général. Et ensuite, ça s'est détérioré et la monarchie est revenue au pouvoir. Et il y a eu vraiment ce qu'on peut appeler le déclin du puritanisme. Alors, on va regarder la première phase. C'est vraiment les puritains et le règne du roi Jacques Ier. Alors, Élisabeth Ière mourut en 1603. Elle s'était proposée de donner de la grandeur à l'Angleterre. Dans cette perspective, elle y arriva dans une certaine mesure. Mais ses crises personnelles, ses bouderies et ses irrationalités, son règne fut un de stabilité, particulièrement si nous le comparons de ce qui allait se passer vers le milieu du 17e siècle. À cette époque, les Puritains représentaient 10% du clergé de l'Église anglicane. Avant de mourir, la Reine Vierge, on l'appelait la Reine Vierge parce qu'elle n'avait jamais été mariée, a clairement désigné pour successeur son plus proche héritier, le roi d'Écosse, Jacques VI Stuart. Alors, celui-ci monte donc sur le trône d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier ou James I. En Écosse, Jacques VI Stuart a été élevé dans la confession calviniste. La religion presbytérienne était majoritaire en Écosse, mais c'était l'Église anglicane qui était majoritaire en Angleterre. Alors, les Puritains avaient donc placé de grands espoirs en Jacques Ier pour apporter de grandes réformes religieuses. Ils envoyèrent au roi une pétition représentant 1000 puritains qui étaient appelés la Millenary Petition. Alors, la pétition avait pour but d'éliminer les derniers rites catholiques dans l'Église anglicane, donc le signe de la croix, lors du baptême, la génuflexion devant l'autel, l'abolition du sacrement de la confirmation, le port du surplis, une observation plus stricte du sabbat, la discipline ecclésiastique, l'excommunication, etc. Alors, cette pétition semble avoir également demandé une nouvelle traduction de la Bible sans note ni commentaire. Une petite observation à faire en passant, c'est parce que la Bible précédente, c'était une Bible où, dans certains passages, comme dans Exode, où il y avait eu la désobéissance civile, il y avait des notes de bas de page qui disaient que un peuple pouvait se révolter contre son souverain si celui-ci était... Alors, la motivation du roi Jacques, du King James, de faire retraduire la Bible dans une Bible sans notes ni commentaires, disons que c'était pas nécessairement pour des motifs religieux. Alors, c'est parce que c'était plutôt pour solidifier son pouvoir. Alors, cette pétition semble avoir également demandé une nouvelle traduction de la Bible sans notes ni commentaires. Alors, le monarque organise la conférence d'Hampton Court, qui réunit anglicans et puritains en 1604 sans aucun succès. Autrement dit, il a essayé de réunir les deux groupes pour essayer d'arriver à un certain consensus, mais comme de raison, ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, ce couronnement réunissant la Grande-Bretagne et l'Écosse est un triomphe, car de surcroît, le calvinisme et l'Église anglicane se réconcilient contre le pape, leur ennemi commun. Mais ce n'est pas la vie du roi qui, grâce à l'union des deux royaumes, veut imposer à son peuple une seule et même religion. Erreur de jugement. Il mécontente à la fois les puritains et s'attire la haine des catholiques. Alors, on a vu que l'erreur qu'il a faite vraiment d'essayer, ça a coûté cher. Bien qu'il ne représente qu'un 20e de la population, les papistes, comme on le dit alors, tente en 1605, avec la complicité de l'Espagne et des jésuites, un coup d'État connu sous le nom de Conjuration des Poudres. En anglais, c'est Gunpowder Treason Plot, qui vise, par une gigantesque explosion, à tuer le roi, tous les lords et les députés des communes. Alors, il s'est installé en dessous du Parlement, où il y avait la réunion du roi, tous les lords, et l'Église catholique s'est dit, si on fait sauter le roi, on va pouvoir mettre quelqu'un qui est favorable à l'Église catholique. Alors, la fameuse conjuration des poudres, sur Internet, il y a beaucoup d'informations qu'on peut lire là-dessus, c'est très intéressant. Très intéressant, mais on va juste donner l'idée principale. Alors, la conspiration des poudres est une tentative d'attentat contre le roi Jacques Ier d'Angleterre et le Parlement anglais par un groupe de catholiques provinciaux anglais conduit par Sir Robert Catesby. Alors, le projet prévoit de faire sauter la Chambre des communes au cours de la cérémonie d'ouverture du Parlement du 5 novembre 1605. L'attentat doit être le prélude à une révolte populaire dans les Midlands, au cours de laquelle la fille du roi, la princesse Élisabeth, alors âgée de 9 ans, sera installée sur le trône d'un État catholique. Catesby semble s'être lancé dans ce complot après que ses espoirs d'une plus grande tolérance religieuse sous le règne de Jacques Ier se sont évaporés, une déception partagée par de nombreux catholiques anglais. Le complot est révélé aux autorités par une lettre anonyme adressée au baron Monteagle le 26 octobre 1605. Lors d'une perquisition de la Chambre des communes, le 4 novembre 1605, vers minuit, on découvre Fox montant la garde devant 36 barils de poudre, assez pour réduire la Chambre des lords ensemble, et il est arrêté. J'ai vu sur Internet, en passant un petit commentaire, les Anglais ont reconstitué un bâtiment semblable à celui de la Chambre des lords, puis ils ont mis vraiment 36 barils de poudre de cette époque-là, puis ils ont fait sauter ça. Non, elle m'a dit une affaire, s'il avait réussi, là, le roi, tous les grands lords de l'Angleterre auraient passé. Vraiment une conspiration épouvantable. Alors, il est arrêté. Alors, lorsqu'ils apprennent que le complot a été découvert, la plupart des conjurés s'enfuient de Londres et tentent de rallier des soutiens dans leur cavale. Plusieurs d'entre eux attendent à Holbeach House pour livrer combat contre le prévôt de Worcester et ses hommes lancent leur poursuite. Catesby est tué lors de l'échauffourée. Lors de leur procès, le 27 janvier 1606, 8 des survivants, dont Fox, sont reconnus coupables et condamnés à être pendus, traînés et écartelés. Les catholiques sont désormais soumis à des lois d'exception, leur religion interdite, les prêtres expulsés. Le roi ne donna pas suite aux demandes des puritains, à l'exception de celles qui demandaient la traduction de la Bible sans notes ni commentaires. Le roi Jacques s'accommodait fort bien du droit divin, qui disait « Quand vous désobéissez au roi, vous désobéissez à Dieu ». Alors le roi avait l'intention de maintenir son pouvoir suprême et ne voulait pas presbytérianiser, qu'on pourrait dire, l'Angleterre. Il fit des remarques cinglantes. Il disait « Presbytery agrees as much with monarchy as God with the devil ». Autrement dit, le presbytérianisme s'accorde autant avec la monarchie que Dieu avec le diable. Alors le roi autorisa cependant une nouvelle traduction de la Bible, la fameuse Authorized Version ou King James Version, qui a été complétée en 1611. Alors pour les anglophones qui sont conservateurs, la plupart des gens ont adopté cette version-là. Entre 1604 et 1609, 80 pasteurs puritains furent destitués pour non-conformité. Alors, Jacques Ier envoya des délégués au synode de Dort qui défendaient le calvinisme. Il supporta cette position, mais devint par la suite ambivalent sur le sujet. En 1624, Richard Montagu publia un traité intitulé « A New Gag for an Old Goose » qui traduisait la montée de l'arminianisme dans l'Église anglicane. Alors, où l'Église anglicane avec les 39 articles, c'était en partie calviniste, mais on voit que déjà il commençait à y avoir un glissement là, vers l'arminianisme. Alors, comme nous venons de le constater, le règne du roi Jacques Ier ou James I amena de l'insatisfaction de la part des catholiques et augmenta de beaucoup la frustration des puritains. Alors, celle-ci s'exprima fortement sous le règne du prochain roi Charles Ier. On disait que, comme par exemple Élisabeth, semble-t-il que son lesbianisme était connu, et lui, le roi Jacques, était homosexuel aussi, et il était accoquiné avec un homme, un Français, qui semble-t-il a presque ruiné l'Angleterre. C'était épouvantable, tout l'argent qui dilapidait les fonds. Alors, il semble que le roi, quand il avait besoin d'argent, il allait vers le Parlement pour faire taxer le peuple, mais les gens savaient ce qui se passait. Alors, il ne voulait pas taxer le monde, parce qu'il disait, regarde, là, c'est du gaspillage, tu fais du gaspillage à tour de bras. Puis lui, il voulait avoir de l'argent pour toutes les affaires de militaires qui se passaient. C'était assez spécial. Il y avait une phrase, apparemment, qui courait dans Londres. Il disait, nous avons eu, t'as peu, comment il disait ça, la Élisabeth et... En tout cas, c'est un jeu de mots qui voulait dire la dame Jacques et l'homme Élisabeth. C'était comme un spécial. Quand tu lis ça, tu te rends compte que des fois, des situations... Mais les puritains étaient au courant de ça. Et apparemment, ils ne se gênaient pas en public. Ils faisaient des affaires même en public. Et pour des gens de cette époque-là, avec la mentalité de l'époque, c'était vraiment un scandale énorme. Alors, juste pour mentionner, des fois, ça rend l'histoire un petit peu plus... on comprend un peu plus qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et son fils, Charles Ier, semble-t-il, qui est homosexuel lui aussi, et le fameux Villiers, Georges Villiers, l'a eu comme amant. Il a eu Georges Villiers comme amant aussi. Alors, quand tu regardes ça, c'est assez spécial. Alors, dans un très intéressant article intitulé « La révolution anglaise de Charles Ier à Oliver Cromwell », l'auteur Michel Duchesne résume d'excellente façon la situation politique et religieuse de l'époque du règne de Charles Ier en Angleterre. Alors, j'ai mis le site web ici. Alors, Charles Ier et la monarchie libre. Comme les autres pays d'Europe occidentale, l'Angleterre et l'Écosse, vers 1630-1640, sont agités de profonds conflits qui marquent le douloureux passage de la rigide société féodale, ou de ce qui en reste, à la société d'échange qui caractérisa les siècles suivants. Ces conflits, nombreux et souvent contradictoires, éclatent surtout sur deux points, la religion et la nature du pouvoir politique, l'un et l'autre étant d'ailleurs étroitement liés. Encore faut-il ne pas transposer au 17e siècle des notions du 21e qui seraient anachroniques, des mots comme « liberté », « ordre » ou « autorité » n'ont pas alors le même sens qu'aujourd'hui, moins encore le sens des hiérarchies sociales. Le contraste entre anciennes et nouvelles notions est précisément à l'origine du drame de 1649, de ses prémices et de ses conséquences. Charles Ier, né en 1600, est en quelque sorte prédestiné à incarner dans sa personne les contradictions de son époque. Son père, Jacques Ier Stuart, 1566 à 1625, roi d'Écosse pendant 36 ans, avant de devenir roi d'Angleterre en 1603, était le théoricien le plus convaincu du droit divin. Pour lui, l'autorité du roi découle de Dieu seul. Les sujets sont tenus à l'obéissance et toute rébellion, toute contestation même, est sacrilège, puisque contraire à l'ordre établi par Dieu. C'est ce qu'il appelle, dans un ouvrage au grand retentissement, la vraie loi des monarchies libres. Alors Charles Ier hérite de son père de cette conception qui n'a alors rien d'extraordinaire. C'est celle de Henri IV en Espagne, ce sera celle de Louis XIV et des autres souverains européens jusqu'à l'ère des Lumières. Mais à cette conception de droit divin, s'oppose avec une force croissante, dès la première partie du 17e siècle, deux autres principes, l'un et l'autre explosifs dans leurs implications pratiques. Celui du droit supérieur de Dieu, c'est-à-dire de la conscience, l'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance au roi, et celui du droit du peuple à résister à la tyrannie, reconnue en Angleterre par la Grande Charte, la Magna Carta de 1215. Alors, c'est vraiment deux pensées, deux conceptions du pouvoir qui s'affrontent et qui vont continuellement se développer jusqu'à que ça arrive en guerre civile. Alors, pour Charles Ier, qui était le roi légitime, sacré et oint de l'huile sainte lors de son couronnement, son droit divin ne fait et ne fera jamais aucun doute. En tant que gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, ça c'est une autre affaire qu'il faut garder à l'esprit, à l'époque c'était le roi qui était le chef de la religion. Titre hérité d'Élisabeth Ière, il ne reconnaît aucune autorité supérieure à la sienne en matière de religion. Il est profondément croyant dans le cadre de cette Église anglicane qui est issue de la réforme protestante, mais conserve bien des traits par lesquels elle reste apparentée à l'Église catholique. Hiérarchie des prêtres, doyens, chanoines, évêques, archevêques, liturgie spectaculaire avec cierge, ornements brodés, calice et ciboire d'or, et surtout, stricte discipline à laquelle le rigide archevêque de Canterbury, William Laud. Sur le plan politique, Charles Ier est persuadé d'agir toujours en conformité avec ses devoirs de souverain chrétien. Ses conseillers, d'abord le duc de Buckingham, ça c'est le duc de Buckingham, c'est le français que je vous parlais tout à l'heure, Georges Villiers. Son ami d'enfance, assassiné en 1628, il est assassiné par un puritain qui croyait agir au nom de Dieu. Puis l'archevêque Laud et à partir de 1629, l'autoritaire et compétent Thomas Wentworth, devenu en 1640 comte de Stratford, le pousse à agir fermement contre les oppositions religieuses et politiques qui se multiplient dès le début de son règne. Alors, la théorie du droit divin se traduit en Angleterre par la prérogative royale, expression qu'on pourrait rendre en termes constitutionnels modernes par « domaine réservé », assurant au monarque l'autorité entière dans divers domaines, dont la politique étrangère et la défense nationale. Cette prérogative, Charles Ier entend l'exercer pleinement. Or, l'Angleterre connaît depuis le Moyen Âge un système de contre-pouvoir incarné par le Parlement. Face à la prérogative royale, s'affirme le privilège du Parlement, dont les deux fleurons sont le droit exclusif de voter les impôts et la liberté d'expression pendant les sessions. Avec un souverain autoritaire comme Charles Ier, le conflit est inévitable. Dès le début du règne, en 1625, le malentendu éclate. Le Parlement entend contrôler l'utilisation des crédits votés. Le roi s'y refuse absolument. Alors, je vous ai dit la raison tantôt pourquoi que le Parlement ne voulait pas. Là. Alors, le Parlement est dissous. Alors, le roi avait le pouvoir de dire, le Parlement, il pouvait le dissoudre quand il voulait. Alors, si vous faites pas ce que je vous demande, je vous dissous tout simplement. Les députés étaient renvoyés chez eux. À partir de ce moment, plus une année ne se passera sans conflit entre les deux conceptions du pouvoir. Peu à peu, se forme une opposition organisée au gouvernement royal, dont les chefs sont des bourgeois régulièrement élus au Parlement, John Eliot, John Pym et John Hampden. Alors, on va parler un peu des Anglicans, des Puritains, des Presbytériens et des Indépendants. Dans l'Angleterre et l'Écosse du 17e siècle, le point sur lequel se cristallise le débat politique est la religion. L'autorité de l'Église anglicane, étroitement liée à celle du roi, qui disait « pas d'évêque, pas de roi », disait Jacques Ier, est rejetée avec une obstination croissante par les calvinistes qui veulent le retour à une Église plus austère, plus pure, d'où leur nom de puritain. En Écosse, les calvinistes dominent l'Église nationale, dite presbytérienne, entièrement indépendante de celle de l'Angleterre. Alors, on le voit, en Écosse, c'était presbytérien et calviniste. En Angleterre, c'était calviniste, entre guillemets, dans l'Église d'Angleterre, mais les deux églises ne s'accordaient pas du tout. Alors, puritains et presbytériens sont les bêtes noires de l'archevêque Laud et de Charles Ier, et les sanctions contre les pasteurs rebelles se multiplient. Avec une rare maladresse, l'archevêque Laud durcit ses positions vers 1630. Il impose la stricte observance du livre de prière anglicain, le fameux Common Book of Prayer. Alors, il l'imposait aux gens dans leur façon de dérouler un culte. Alors, c'était vraiment la cible principale des critiques puritaines. C'est surtout avec l'Écosse que le conflit s'envenime. Laud pousse Charles Ier à imposer aux rudes presbytériens la hiérarchie épiscopale et la liturgie anglicane. Imaginez-vous, t'es en Angleterre, puis tu penses que tu vas réussir à imposer. Puis les Écossais, là, c'est pas des faciles à diriger. Là. C'était des calvinistes, puis ils étaient convaincus que l'Église anglicane n'était pas bonne. Puis là, lui, il essaye d'imposer son affaire là-bas. Oh, ça l'a brassé. Alors, en résulte une émeute qui éclate à Édimbourg le 23 juillet 1637. Puis, la constitution d'une ligue, ou covenant. Voyez-vous, c'est la première fois, ça fait longtemps que je vois le terme les covenanters d'Écosse. C'est la première fois que je vois d'où ça vient. Ça vient de là. Alors, c'était la fameuse révolte que Laud a essayé d'imposer l'anglicanisme. Et les covenanters, c'était vraiment des gens qui se sont alliés dans une alliance pour dire « Non, non, tu ne nous imposeras rien de tout ça ici. » Alors, à laquelle les Écossais adhérèrent en masse pour défendre leur liberté de conscience. Charles Ier réagit conformément à son caractère. Il déclare le covenant illégal et se prépare à rétablir son autorité par la force. Ce sera la guerre des évêques qui marque le début de la Révolution en août 1640. Mais dans l'Angleterre bouillonnante des années 1630-1640, anglicans et puritains ne sont pas seuls. Les catholiques, persécutés depuis Élisabeth Ière, exclus par la loi de la fonction publique, sont protégés par la reine Henriette Marie, sœur de Louis XIII, qui est française. Surtout, de plus en plus de croyants indépendants ne veulent obéir qu'à leur propre conscience et refusent toute autorité ecclésiastique. Les sectes se multiplient, qui, aux yeux du roi Charles et de sa conseillère, mènent à l'anarchie. Alors, pour faire la guerre aux Écossais, bien entendu, il faut de l'argent. Or, seul le Parlement peut voter les crédits nécessaires. Depuis 9 ans, le roi s'est arrangé pour gouverner sans Parlement. La convocation et la dissolution de l'Assemblée faisant partie de la fameuse prérogative et ayant recours à des expédients financiers, emprunts forcés, taxes diverses, dont la légalité est contestée par de nombreux juristes et contribuables. Dans ces conditions, le Parlement, convoqué pour financer les opérations militaires en Écosse, qui se réunit le 18 avril 1640, est mort-né. Il est dissous 17 jours plus tard, sans que rien ne soit voté. Cependant, la campagne engagée à la fin de l'été tourne mal pour le roi. Les Écossais du Covenant entrent en Angleterre et occupent Newcastle. Charles Ier, la mort dans l'âme, doit convoquer un nouveau Parlement pour le 3 novembre 1640. Alors, il est dissolvé, mais il n'avait besoin. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il revienne. Alors, malheureusement pour lui, cette fois, il n'a plus aucun moyen de s'opposer efficacement aux députés. Les caisses du Trésor sont vides. Il n'y a plus d'armée royale en état de combat. Le gouvernement est violemment impopulaire. L'Église de Laud a de plus en plus d'adversaires dans la bourgeoisie et même dans la noblesse. Le Parlement a la main haute. Il s'en rend parfaitement compte. Dès le début de la session, l'Assemblée, dominée par l'énergique personnalité de John Pym, on l'appelait le roi Pym, comme on le dira bientôt, vote une série de mesures révolutionnaires. On dirait les États généraux de 1789 en France. Interdiction pour le roi de rester plus de 3 ans sans convoquer un Parlement. Annulation de tous les emprunts et taxes illégaux décrétés par le roi depuis 1631. Interdiction de dissoudre le Parlement sans l'autorisation des députés. C'est la loi du perpétuel Parlement, ironise Charles. Le souverain, impuissant, signe toutes ses mesures. Pis que tout, il finit par consentir à la condamnation de son conseiller et ami Stratford, qui est exécuté le 12 mai 1641. En même temps, Londres s'agite. Des émeutes éclatent un peu partout. Des cris de mort sont poussés contre la reine. Enhardi, le Parlement vote une grande remontrance, véritable acte d'accusation contre la royauté. Laud est emprisonné. Alors Laud, là, il faut dire que c'était l'archevêque de Canterbury. Et pendant très longtemps, il était extrêmement cruel envers les puritains. Il les faisait enfermer, il les faisait torturer. Alors, il dominait l'Église anglicane avec vraiment une main de fer. Mais là, son tour était venu. On l'a emprisonné à la Tour de Londres. Alors, toute la vieille constitution monarchique du royaume est ébranlée. Dès lors, la guerre civile est inévitable. Charles Ier sort de Londres, rallie ses partisans à Nottingham pendant que le Parlement lève une armée. Au début, les armes favorisent plutôt le roi qui s'installe à Oxford et tente d'y réunir un contre-parlement. Désespérant d'en venir à bout, le Parlement élu en 1640, de plus en plus dominé par les puritains, conclut une alliance avec les presbytériens d'Écosse. Après la dictature religieuse de Laud, finalement exécutée le 16 janvier 1645, s'établit celle des calvinistes. Le Parlement, jusqu'alors populaire, commence à faire figure d'oppresseur et les querelles de personnes le paralysent après la mort de Pym en décembre 1643. Entre 1629 et 1640, 20 000 hommes, femmes et enfants quittèrent l'Angleterre pour l'Amérique du Nord, ce qui allait devenir les États-Unis. On trouvait parmi eux plus de 79 pasteurs, dont plusieurs étaient déjà très connus dans leur milieu, Thomas Hooker, John Cotton, puis Thomas Sheffield. Alors, on voit que Dieu se sert des problèmes de l'Angleterre pour faire naître une nouvelle nation qui est les États-Unis. Faut voir des fois comment Dieu travaille, c'est particulier. Là, on va regarder les Puritains et la montée d'Oliver Cromwell. Autrement dit, tout le conflit entre la royauté et la Chambre des communes a fini par se développer à un tel point que c'est devenu la guerre civile. Alors, ça a vraiment été mal. Alors, la guerre civile et Oliver Cromwell. Alors que les chefs de l'armée parlementaire suivent avec réticence l'évolution des événements, un obscur député, Oliver Cromwell, sort de l'anonymat et prend un ascendant de plus en plus marqué. Sous son impulsion, une grande réforme militaire créée en 1645, l'armée dite du Nouveau Modèle, où les indépendants, qui rejettent autant la dictature puritaine que l'anglicane, sont prépondérants. Ce sera l'armée des saints, on appelait, qui raflera la mise sous la conduite de Cromwell et à son profit. Qui est donc ce nouveau venu? En 1645, il a 46 ans. Issu d'une famille honorable, mais pauvre, de la région de Cambridge, il est profondément croyant, assez tolérant, mais refuse absolument l'autorité des évêques anglais, aussi bien que celle des pasteurs puritains et presbytériens. Sa relation avec Dieu est ardente, mais directe. Il ne souffre pas d'intermédiaire. Il méprise les députés, bavard impuissant, et se trouve à l'aise dans l'armée, où il compte de plus en plus de partisans. Le 16 juin 1645, il écrase l'armée royale à Naseby, près de Coventry. Charles Ier se réfugie auprès des Écossais, qui le livrent au Parlement. Le 2 juin 1647, un coup de force militaire s'empare du roi, que Cromwell tient désormais en son pouvoir. À partir de ce moment, les événements se précipitent. Cromwell offre d'abord à Charles Ier de négocier, offre sincère ou simple leurre, on en discute encore aujourd'hui. Mais Charles finasse, joue double jeu, tente de s'évader, est repris et Cromwell décide d'en finir. Pour plus de sécurité, le Parlement est épuré. 96 députés jugés trop tièdes sont chassés manu militari et une commission soigneusement choisie est constituée afin de juger le roi pour trahison. Imaginez-vous à l'époque, comprendre, juger un roi à cette époque-là, c'était très, 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 très audacieux. Alors jamais n'avait été affirmé de façon aussi éclatante le principe de la supériorité du pouvoir populaire sur le pouvoir royal. Cromwell en est parfaitement conscient, qu'il appelle « cruelle nécessité », car il n'éprouve pas de haine personnelle contre Charles Ier. C'est bien le roi qu'il faut éliminer en tant que roi. Quelques jours après l'exécution, une loi votée par ce qui reste du Parlement décrète la fin de la monarchie, qu'il calcule comme étant un danger pour la liberté et la sécurité du peuple, et il instaure la République. Alors, cette République, inaugurée le 19 mai 1650, ne durera pas longtemps. Cromwell, qui dispose du pouvoir effectif grâce à l'armée, se trouve bientôt aux prises avec les extrémistes politiques et religieux, ceux qu'aujourd'hui on appellerait volontiers anarchistes, tels ceux qu'on appelait les niveleurs, qui voulaient établir une égalité absolue entre les hommes au nom de l'Évangile et qui refusaient toute autorité. Or, Cromwell est fondamentalement un homme d'ordre. Ce qu'il a en vue est le règne de Dieu, Dieu dont il est l'interprète et l'instrument privilégié. Il a scié son autorité en noyant dans le sang l'insurrection de l'Irlande, puis en écrasant la rébellion de l'Écosse, enfin en éliminant ce qu'on appelait les niveleurs. Dès 1652, il n'a plus de rival. Il rétablit l'ordre en Angleterre qu'il gouverne d'une poigne de fer. Le 20 avril 1653, il se décide à faire sauter le dernier obstacle. Le Parlement est dissous par la force. On croirait, toute proportion gardée, vive par anticipation le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Alors que Bonaparte se fera proclamer premier consul, Cromwell prend le titre de Lord Protecteur de la République, en fait, maître absolu. Ses ennemis le qualifient de tyran hypocrite, moquant sa manie de parler au nom de Dieu. Mais tout semble lui réussir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il engage la guerre contre la Hollande, qu'il gagne. Il s'allie à la France de Mazarin contre l'Espagne. Songe-t-il alors à devenir roi? Tout porte à le croire. Il est qualifié d'altesse, s'entoure d'un faste royal. Pourtant, en mai 1657, quand un nouveau parlement lui offre la couronne, il la refuse. Hypocrisie, scrupules sincères, simple manœuvre, on ne sait pas. Toujours est-il que s'il n'a pas le titre de roi, il en a tous les pouvoirs. Toute l'Europe s'attend à ce qu'il franchisse le dernier pas. Mais il meurt inopinément, âgé de 59 ans, le 3 septembre 1658. Pour ses funérailles, il portera la couronne royale. Son fils Richard lui succédera, avant d'abdiquer quelques mois plus tard et de laisser la place au fils de Charles Ier, Charles II, réfugié. Alors, le fils de Charles Ier était rendu en Hollande et éventuellement, il est revenu en Angleterre et la royauté s'est rétablie. Alors, le quatrième point qu'on regardait, les puritains et leur influence. Alors, durant cette époque-là, il s'est voté des choses importantes qui ont eu une très, très grande influence religieuse au cours des siècles qui ont suivi. Comme par exemple, l'apport de la Westminster Confession of Faith. Le 12 juin 1643, le Parlement vota une ordonnance demandant une assemblée des Godly Divines, qu'ils appelaient, alors on pourrait traduire par théologiens pieux, pour régler les questions du gouvernement, de la définition de la doctrine et de la liturgie pour l'Église d'Angleterre. L'Assemblée se réunit du 1er juillet 1643 jusqu'en février 1649, donc ça s'est fait sur une assez longue période. Plus de 1163 séances furent tenues durant cette période. L'Assemblée de Westminster comprenait 151 membres, 121 étaient des théologiens et 30 des laïcs. Alors, les fameux documents, ces trois documents-là qui ont produit durant ces 6 ans-là et qui continuent d'influencer la foi réformée, surtout presbytérienne, alors dans le monde. Alors, ils ont produit les documents de Westminster Confession of Faith. Ensuite, ils ont publié The Larger and the Shorter Catechism. Autrement dit, c'était un catéchisme pour enfants, les jeunes, et un catéchisme pour les plus vieux. Et aussi The Directory of Public Worship, qui avait pour but de modeler un peu la façon dont un culte doit se dérouler. Alors, ces documents eurent une énorme influence. Ils amenèrent les congrégations baptistes congrégationnistes à adopter les confessions de foi similaires qui ont des variantes sur approximativement 10 % du contenu. Si vous prenez la confession de foi, Westminster Confession of Faith, puis vous la publiez, vous la mettez à côté de la nôtre, il y a à peu près 10 % du contenu qui est différent. Et on sait à peu près sur quel point l'Église, le baptême et certains autres petits points comme ça. Comme aussi sur la définition de qu'est-ce que c'est l'Alliance. Alors, il y a quelques points comme ça. Alors, 10 % c'est pas beaucoup. Alors, on peut dire que l'influence de ça, ça a été de faire en sorte que même les baptistes ont dit « Oui, c'est très bon. On ne veut pas changer pour changer. Quand c'est bon, mais on veut la modifier juste sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, comme le baptême des bébés et des choses semblables. Comment le gouvernement de l'Église et des choses, d'autres choses comme ça. » Alors, le document a eu une influence énorme. Et aussi, à cette époque-là, les puritains, si on veut parler de leur influence, faut regarder la qualité et la profondeur du leadership des œuvres des pasteurs puritains. On dit, tous les spécialistes s'entendent pour dire que c'est la période de l'histoire anglaise où il y a eu les pasteurs les plus élevés, les plus de qualité, et qui ont écrit énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence vraiment à ramener beaucoup de ce qu'ils ont écrit, parce qu'il y a des mines d'or là-dedans. Alors, parmi les plus fameux, alors on peut citer Robert Bolton, Robert Harris, Jeremiah Burroughs, j'ai déjà lu des... Et j'ai déjà utilisé ce puritain-là pour faire des sermons. William Gouge, Edward Kellamy, Thomas Goodwin, aussi, je l'ai déjà étudié. Thomas Watson, je l'ai déjà étudié aussi. Thomas Manton, Stephen Charnock, on dit que c'est le meilleur livre qui a jamais été écrit de toute époque sur les attributs de Dieu. Une brique à peu près ça dépasse. C'est vraiment extraordinaire. Leur connaissance des Écritures est vraiment... C'est extraordinaire. Richard Baxter, John Bunyan, John Flavel. John Flavel, je m'en suis servi ici pour faire la série de sermons sur la providence de Dieu, The Providence of God. C'est lui qui a écrit ça. Et comme je vous avais dit quand j'ai fait les sermons, je suis loin d'avoir épuisé le livre dans lequel j'ai épuisé ça. Je pense que j'avais fait 10 sermons, j'aurais pu en faire 20-25 facilement. C'est tellement riche, c'est incroyable. William Bridge, David Clarkson, George Swinock, Richard Sibbes, John Howe, etc. Alors, c'est l'époque où tous les grands personnages qui ont étudié l'histoire de l'Angleterre et l'histoire de la théologie anglaise s'accordent pour dire que c'était la période où Dieu a permis des leaders exceptionnellement compétents et exceptionnellement aussi sanctifiés. Alors, le dernier point qu'on va regarder, c'est vraiment les puritains, leur déclin et comment la restauration de la monarchie s'est faite. Alors, Cromwell est mort en 1658, il était remplacé par son fils Richard. Cependant, il n'avait pas l'étoffe de son père. Le fils de Charles Ier était alors en Hollande, qui deviendra ultérieurement le roi d'Angleterre sous le nom de Charles II. Alors, la jeunesse de Charles II, il est le fils aîné du roi Charles Ier d'Angleterre et de son épouse Henriette de France, elle-même fils du roi Henri IV. Pendant sa jeunesse, son père, qui gouverne en monarque absolu, est en conflit avec le Parlement. En 1642, une guerre civile éclate entre les partisans du roi et ceux du Parlement, et les armées des deux camps s'affrontent. Le futur Charles II est envoyé en 1646 aux Pays-Bas, où sa sœur Marie a épousé le prince Guillaume II d'Orange-Nassau. Son père, le roi Charles Ier, est vaincu, capturé, puis décapité en 1649, et pendant les années 1650, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande sont gouvernés par Oliver Cromwell, puis par le fils de celui-ci, Richard Cromwell, qui abdique en 1659. Alors, le règne de Charles II, après l'abdication de Richard Cromwell, une période d'incertitude s'installe, ce qui amène le Parlement à rétablir la royauté, donc ce qu'on a appelé la période de la restauration royale anglaise. Alors, de retour d'exil en 1660, Charles II accorde des titres et des terres à ceux qui l'ont soutenu et abroge certaines taxes impopulaires. Le nouveau Parlement est en majorité royaliste et de religion anglicane. Le début du règne est marqué par une série de catastrophes. En 1665, une épidémie de peste fait de nombreuses victimes, et en 1666, un incendie ravage Londres. En 1679, le Parlement vote ce qu'ils ont appelé l'Habeas Corpus Act, qui protège la liberté individuelle des Anglais et l'indépendance des juges face à la politique absolutiste et répressive des gouvernements de Charles II. À l'extérieur, Anglais et Hollandais s'affrontent outre-mer pour posséder les territoires d'Afrique et d'Amérique du Nord appartenant aux Pays-Bas. Les Anglais s'emparent tout d'abord de la Nouvelle-Amsterdam, qui est rebaptisée New York, puis ils subissent ensuite une grave défaite en 1667. Les Hollandais remontent la Tamise et presque tous les navires de la flotte anglaise sont coulés. Charles II, allié des Pays-Bas contre la France pendant la guerre de la Dévolution en 1668, conclut ensuite une alliance secrète avec le roi Louis XIV de France en 1670. Louis XIV lui accorde un soutien financier afin que Charles II ne soit pas trop dépendant du Parlement anglais. La situation religieuse se détériora pour les Quakers, les Baptistes et les Puritains. En janvier 1661, une proclamation royale prohibait les assemblées de ces dénominations. 4000 Quakers et beaucoup de Baptistes furent emprisonnés. Ce fut à cette époque que John Bunyan fut emprisonné. La législation Clarendon Code obligeait à une adhérence stricte à l'anglicanisme. Les pasteurs se devaient d'être ordonnés par l'Église anglicane. Autrement dit, à cette époque-là, si tu n'étais pas ordonné par l'Église anglicane, légalement, tu n'étais pas un pasteur. Alors, les pasteurs se devaient d'être ordonnés par l'Église anglicane. Les cultes devaient suivre le fameux Common Book of Prayer et tous devaient prêter un serment d'allégeance à l'Église anglicane. Plus de 2000 puritains furent jetés dehors de leur propriété. L'année 1662 fut le début du déclin des puritains. Ils subirent de sévères et incessantes persécutions et furent bannis des universités. À partir de cette période, ils recoururent trop à la politique pour tenter de régler des problèmes de nature spirituelle. Leurs leaders furent également d'une qualité beaucoup moindre. Mais ce fut également durant cette période que l'on vit apparaître les écrits du ce qu'on a appelé « the Prince of the Puritans », vraiment le prince des puritains, le très célèbre John Owen. Son œuvre théologique comprend plus de 25 volumes. Ce fut le plus grand théologien produit par les puritains et considéré par beaucoup comme le plus grand théologien de la langue anglaise de toute époque. On a dit de lui, de son œuvre, « Probably the best repository of reliable theology in the English language ». Autrement dit, probablement le meilleur dépôt de théologie fiable de la langue anglaise. Beaucoup d'analystes de cette période voient le bris de leur unité comme le facteur prépondérant dans leur déclin. Alors, la succession de Charles II, les années suivantes, le roi entre en conflit avec le Parlement qui est mécontent de sa tolérance envers la religion catholique. Charles II est marié depuis 1662 à Catherine de Bragance, sœur des rois du Portugal, Alphonse VI et Pierre II, dont il n'a pas eu d'enfant. Les parlementaires tentent de faire voter une loi pour exclure de la succession le duc d'York, donc le frère du roi, qui est de religion catholique. Charles II dissout alors le Parlement en 1681 et ne le réunit plus jusqu'à la fin de son règne. À sa mort, en 1685, la couronne revient à son frère, le catholique Jacques d'York. Alors, on voit vraiment le combat continuel entre les protestants et les catholiques. Ça s'est fait... Les catholiques n'ont jamais lâché prise. Alors, il y a eu comme une succession dans ceux qui dominaient. Quelles sont les applications? Observons le combat incessant du royaume des ténèbres pour reprendre son territoire et se réassujettir les âmes. Les moyens utilisés sont toujours les mêmes. La violence, la législation injuste, l'emprisonnement, la torture, le mensonge et autres moyens habituels utilisés par le malin et ses serviteurs. Deuxième application, les périodes de grands combats pour les chrétiens donnent souvent des résultats plus qu'appréciables. Un regain de piété, un désir intense de sanctification, un plus grand amour des Saintes Écritures, le rejet du formalisme et une vie consacrée et un courage à toute épreuve. Troisième application, l'erreur de trop vouloir utiliser la politique pour régler les problèmes spirituels n'est que trop fréquente. Elle apporte toujours un grand nombre de problèmes. Quatrième application, le Seigneur a utilisé les puritains pour purifier son Église en Angleterre et a permis qu'ils soient des instruments dans la fondation des États-Unis. Que notre grand, glorieux et souverain Seigneur soit béni et loué pour sa sagesse dans la direction de la vie de son Église dans l'histoire. Amen. Amen.